Des personnes formées à la médecine académique qui s'appuient aussi sur des énergies mystérieuses pour soigner les corps et les âmes. La médecine et l'invisible. Une émission de Samuel Soquet et Pauline Vrolix. Et si la médecine et l'invisible pouvaient faire alliance?
Dans cette émission, nous interrogeons des personnes formées à la faculté de médecine. Nous rencontrons aujourd'hui Brigitte Favre. Elle est psychologue et psychothérapeute FSP. Elle n'est donc pas médecin, mais on a choisi de faire une exception avec elle, car c'est une spécialiste d'un thème central pour les humains, la mort, et le deuil qui l'accompagne.
Un sujet que l'on perçoit aujourd'hui avec une acuité particulière en ces temps de pandémie.
L'accompagnement qu'elle propose interroge nos croyances. Brigitte Favre prétend parler aux âmes des défunts.
Elle ne pratique pas la voyance ou la divination, mais la médiumnité dite de contact. Il n'est donc pas question de prédire le futur. Pour expliquer sa démarche, elle a écrit « Soigner les vivants et parler aux morts », un ouvrage paru aux éditions Favre en octobre 2020.
C'est une femme consciencieuse. Devenue médium un peu malgré elle, elle ne rate aucune occasion de se former pour légitimer sa pratique et rester bien ancrée dans le monde des vivants. Je retrouve Brigitte Favre chez elle à Vernier, dans le canton de Genève.
10 témoignages recueillis par Pauline Vrolix et Samuel Soquet.
Alors moi, je viens en fait de Payerne, donc dans le Gros de Vaud, et c'est là que j'ai vécu en fait jusqu'à mes 13 ans. Et ensuite, je suis venue, quand mes parents ont divorcé, d'ailleurs, vivre à Genève avec ma mère et mes frères. Donc je dirais que maintenant, ça fait bien plus longtemps que j'habite à Genève, même si je garde quelque chose de très, beaucoup d'affection pour le canton de Vaud et d'où je viens.
Vous vous considérez aujourd'hui plutôt comme genevoise ou comme vaudoise ?
Je dirais genevoise quand même au bout d'un moment. Mais j'ai toujours un peu le cœur qui fait un bond quand je retourne à Payerne et que je vois les champs, enfin, ces endroits de là-bas. Donc j'ai beaucoup d'affection.
Vous avez évoqué vos frères et votre maman avec qui vous êtes venue habiter à Genève. Vous aviez combien de frères ?
Alors j'en ai trois frères, donc je suis la deuxième, j'ai un grand frère, et j'ai deux petits frères qui sont jumeaux, donc voilà, la seule fille dans une famille de garçons. Vous apprenez un peu à vous défendre, hein, parce qu'ils étaient un peu terribles, mais il y a les deux côtés, d'un côté on doit un petit peu se bouger, se défendre, puis de l'autre on est complètement choyé, parce qu'on est la seule fille.
Et aujourd'hui, vous devez encore vous défendre avec eux ?
Plus du tout. Même s'ils ont gardé certains réflexes, des fois un petit peu de m'embêter quand ils me voient, mais ça va. On a vraiment eu cette habitude de faire beaucoup de choses ensemble, et puis de se tenir les coudes. Et je dirais que c'est vraiment ce qui nous caractérise avec mes frères. On a perdu nos parents, hein, on est maintenant... Son parent, les quatre, et vraiment, on est extrêmement soudés. Et on l'a toujours été, on le reste.
Ça fait longtemps que vous avez perdu vos parents ?
Alors oui, ça fait déjà maintenant 8 ans pour mon père et 9 ans pour ma mère. À un an d'intervalle, effectivement, donc ça fait un bon moment. Voilà, je suis OK avec ça, vu mon côté médium. Mais effectivement, il n'y a rien qui remplace le côté physique, hein, le côté de pouvoir voir la personne, lui parler, lui prendre la main, téléphoner. Donc évidemment, tout ça, ça manque.
Vous dites aujourd'hui vous êtes OK, ça vous a manqué pendant longtemps ?
Oui, quand même. Et ça manque toujours. C'est pas parce que je suis OK avec que la présence physique des gens qui ont disparu me manque pas.
Vos parents, quand ils sont morts, ont été déjà grands-parents ? Vous aviez des enfants à l'époque ?
Oui, ils étaient grands-parents, mais pas par moi. J'ai pas d'enfants. Mais comme vous avez vu, j'ai un gros chat. C'est pas que ça remplace. Mais voilà, je n'ai pas d'enfants.
Il y a effectivement un chat qui est passé tout à l'heure, noir et blanc. Qui s'appelle Sangha, c'est ça ?
Exactement, oui, il s'appelle Sangha. C'est un nom qu'on n'a pas choisi, nous, on l'a pris à la SPA. Et visiblement, son ancien propriétaire devait aimer le bouddhisme, parce que ça veut dire disciple du Bouddha. Alors voilà.
Et puis, il y a une activité que vous avez pratiquée longtemps, je ne sais pas si vous la pratiquez encore, c'est la plongée.
C'est la plus grande passion de ma vie. Ça fait de nombreuses années, hein, c'est ma psychothérapie, la plongée sous-marine.
Ça vous soigne ?
Oui, ça me soigne parce que quand je suis sous l'eau, j'ai l'impression que le monde est à sa place. Même s'il y a des poissons qui attaquent d'autres poissons, même s'il y a une certaine violence. Hein, et je regarde ça, puis je me dis, mais j'ai l'impression que tout est aligné et qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement harmonieux. Et Je suis juste un observateur, alors j'essaie de pas trop déranger, je regarde. Je prends pas de photos, je suis un des rares plongeurs qui prend zéro appareil de photo sous l'eau. Pourquoi ? Parce que j'adore regarder. Et pour moi, j'essaie juste d'imprimer les choses dans mon cerveau et je trouve ça extraordinaire.
Ça doit être aussi assez reposant d'être face à des êtres vivants qui échappent complètement à votre système de référence psychothérapeutique. Vous n'avez pas possibilité d'interpréter leur gestuelle, leur relation.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Et puis, il y a aussi des fois la communication qui s'induit avec même les poissons. Des fois, je me souviens que j'ai eu un dauphin qui est venu vers moi, qui est resté un moment, qui a choisi de venir. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il y a une communication aussi qui se met en place. Et là, on se sent très privilégié parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas nous qui choisissons et que c'est les poissons qui décident. Même si on ne se comprend pas, même si on vient d'autres mondes, eh bien finalement, on peut quand même s'approcher, peut-être communiquer d'une autre manière.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir la psychologie dans votre parcours professionnel ?
Alors la psychologie, ça a été une deuxième formation. Avant ça, j'ai fait l'école de commerce et puis j'ai travaillé pendant 13 ans dans l'administratif, en fait, dans divers domaines comme l'immobilier, la finance, l'import-export. J'ai travaillé pour une maison pharmaceutique et j'aimais beaucoup ça. Et à un certain moment, j'ai perdu mon emploi. Je me suis décidée que si je retournais à l'université, ce serait pour faire quelque chose qui m'avait vraiment passionnée, qui me passionnait depuis des années, qui était la psychologie. Et c'est pour ça que j'ai changé de carrière.
C'est quoi qui vous passionnait dans ce domaine, la psychologie ?
Quand j'avais 19 ans, j'étais partie faire un séjour aux États-Unis et je m'étais retrouvée dans une université où il y avait des étudiants de tous bords, dont des étudiants en psychologie. Et je me souviens que je m'étais liée d'amitié avec l'un d'eux et ça me passionnait tout ce qu'il m'expliquait. On passait des heures à la cafétéria à essayer d'expliquer le comportement des humains, donc ça me passionnait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envisagé déjà à l'époque, mais voilà, je travaillais déjà, donc pour moi c'était pas quelque chose que j'aurais sans doute commencé s'il m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé dans mon parcours, c'est-à-dire d'avoir perdu mon travail. Et aussi, plus tard, j'ai fait moi-même une psychothérapie. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvée à me rendre compte que ça se passait pas très bien au niveau nourriture. C'est-à-dire que je commençais à être un petit peu obsessionnelle sur ce que je mangeais, les calories, j'avais peur de grossir. Et je me suis rendu compte, en fait, en m'ouvrant à une amie, que c'était peut-être pas tout à fait normal. Elle m'a dit, écoute, ce serait bien que tu consultes quelqu'un. Et j'ai consulté quelqu'un, un psychiatre formé en psychothérapie. Donc évidemment, ça m'a, en ayant eu ce succès sur moi-même, j'ai vraiment voulu aussi, en me disant, moi j'ai cette expérience-là, j'ai peut-être envie aussi d'aider les autres.
Cette psychothérapie vous a permis de sortir de vos comportements problématiques avec la nourriture, c'est ça ?
Oui, à un moment j'en ai plus peur, j'ai pu retrouver en fait un rapport tout à fait normal avec la nourriture et ma liberté avec. En parlant de tout ça, en remettant les choses dans les bons tiroirs, en remettant de l'ordre dans ma vie, dans mes pensées, visiblement, ça a eu un impact sur mon problème de nourriture et mon problème de contrôle dans ma vie.
Par la suite, en devenant psychologue, psychothérapeute, est-ce que ça vous a donné envie de vous spécialiser dans ce champ particulier des troubles alimentaires ?
Ça m'a surtout donné l'envie au départ de m'intéresser aux addictions, parce que les troubles alimentaires font partie des addictions. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous empêcher soit de manger, soit de compter les calories, soit de pas manger. Donc ça, c'est un peu dans les compulsions. Donc dans ce sens-là, ça fait partie des addictions.
Donc vous faites ce changement d'orientation professionnelle, vous avez quel âge ?
Alors quand je fais ce changement, j'ai 33 ans. Donc ça a vraiment été sur le tard. Ça a été bizarre d'ailleurs de recommencer l'université à cet âge-là. Et j'avais trouvé qu'en Angleterre, il y a une université qui s'appelle Open University et qui accepte en fait les étudiants de tous bords, indépendamment de ce que vous avez fait avant. Et si j'ai choisi l'approche cognitive et comportementale, c'était parce que c'était celle qui était vraiment utilisée le plus pour les addictions. On va regarder un petit peu comment la personne voit le monde. Donc comment ses pensées, les cognitions, comment elles se comportent, et puis quelles sont ses émotions et les liens entre les trois. Parce qu'il est évident que, suivant comment je vois le monde, que si je, par exemple, c'est un exemple assez standard qu'on prend, mais si pendant la nuit, ben, j'entends un bruit, hein, et que je me dis, quand j'entends ce bruit, que c'est le vent qui va pousser mon store, ou bien que c'est un cambrioleur, il est évident que je vais avoir d'autres émotions et d'autres comportements. Quand les gens viennent me consulter, c'est souvent qu'ils voient le monde d'une manière qui les rend soit anxieux, soit dépressif, qu'on s'attache à, je dirais pas à corriger, mais à trouver des manières de penser qui sont peut-être plus rassurantes pour des personnes qui sont hyper anxieuses. Et c'est un modèle qui me convient bien, parce que c'est un modèle qui est plutôt collaboratif. On est vraiment deux personnes qui, ensemble, regardons un problème et essayons de le résoudre, moi et le patient.
Vous avez je ne sais pas, c'était au début de votre seconde carrière, donc vous avez travaillé aux HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève?
Oui, tout à fait. J'ai travaillé au HUG dans un résidentiel, justement, qui soignait les personnes qui avaient des problèmes d'alcool.
Vous en avez retiré quoi de cette expérience de clinicienne dans un hôpital?
D'abord, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'être avec d'autres métiers, des infirmiers, des médecins, des assistants sociaux. Enfin, il y a tout ça autour. Donc, j'ai adoré l'hôpital pour cette richesse-là, en fait, de métiers. Et puis, aussi, ce que j'en ai retiré par rapport aux personnes qui souffraient d'alcool, c'est que l'alcool, en fait, il fait faire certaines choses aux gens et c'est pas eux. C'est-à-dire que l'alcoolisme m'a donné vraiment cette vision de l'humain, qui est cette personne en dessous de quelqu'un qui prend une substance. Et on disait souvent avec mes collègues qu'on aurait dû prendre des photos des gens qui rentraient en cure puis quand ils sortaient, parce que même physiquement, il y avait quelque chose qui changeait énormément de quelqu'un qui est sous l'emprise d'alcool ou qui prend des produits et puis après qui est plus sous ces produits-là. Et c'est comme si on pouvait retrouver la personne de qui elle est vraiment. Et ça, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup aidée par la suite dans mon métier de psychothérapeute, de me dire des fois, mais j'ai cette personne qui est anxieuse en face de moi ou dépressive, mais qui elle est en dehors de cette dépression ou en dehors de ce problème qui la touche tellement? Parce que parfois, ça devient presque une identité et mon travail, c'est justement d'aider à retrouver qui sont vraiment en dessous de tout ça et leurs ressources.
Vous avez passé combien de temps aux HUG?
Alors, 2 ans.
Et après, vous décidez de vous installer en libéral. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce groupe qui, vous dites, vous nourrissait et vous apportait beaucoup pour vous installer dans un travail beaucoup plus solitaire?
J'aurais adoré rester au HUG, mais il y a peu de place pour les psychologues. Et vous trouvez souvent des places à mi-temps. Donc, de toute manière, ben, ça nourrit pas son homme ou sa femme. Hein. Je me suis installée en libéral, oui, assez vite, grâce à un ami qui m'a accueillie dans son cabinet à Morges. Mais aussi, en parallèle, j'ai travaillé pour une équipe de soins palliatifs dans le canton de Vaud, où c'est pas moi qui soutenais les gens qui étaient en fin de vie, mais je faisais partie d'une équipe pluridisciplinaire qui soutenait ces équipes soignantes qui, elles, soutenaient les mourants.
Qu'est-ce que ça fait de travailler dans ce secteur-là? Vous en avez retiré quoi?
En travaillant avec des gens en fin de vie ou avec les soignants qui accompagnent les gens en fin de vie, je me suis rendu compte que, en fait, l'espoir est toujours possible jusqu'au dernier souffle. Évidemment, on sait qu'on va tous mourir, mais on peut peut-être aider les gens à mourir mieux ou à être plus en paix avec ça. Ou bien s'ils ne le sont pas, être OK aussi avec ça. On a beaucoup travaillé avec les équipes qui étaient en première ligne dans l'idée, qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort?
Est-ce qu'il y a une bonne mort?
Non, justement pas. Il n'y en a pas. Et notre travail, c'est d'accepter ça et d'accompagner les gens où ils sont. S'il y a des gens qui sont fin de vie et qui n'ont pas envie de parler de leur mort, ils en ont le droit. S'il y a des familles qui veulent pas entendre que leur proche est en fin de vie, c'est aussi OK. Parce que ces protections-là, elles sont là pour de bonnes raisons. Et ça m'a beaucoup aidée ensuite dans la psychothérapie pour me rendre compte que les résolutions des gens qui viennent me voir, c'est pas les miennes. C'est aux gens de décider et à moi de les accompagner. Donc ça a été très formateur à ce niveau-là.
Quand vous faisiez cet accompagnement aux soins palliatifs, vous avez quel âge?
Alors j'avais plus de 40 ans.
Là, vous côtoyez la mort à travers les soignants et les personnes qui sont en fin de vie. Mais vous avez côtoyé la mort d'assez près quand vous étiez plus jeune. À 19 ans, vous avez votre petite amie qui meurt. Et c'était la première fois que vous viviez un deuil proche comme ça?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai perdu mon petit ami quand j'avais 18 ans. Effectivement, lui en avait 19. Hein. Et ça avait été une mort dramatique parce qu'il était mort d'un coup, hein, je crois, une sorte de rupture d'anévrisme, hein, même s'il était très jeune. Hein. Donc, ça avait été quelque chose de dramatique, hein, qui était un peu inexplicable. Et c'est vrai que ça m'avait laissé assez, avec beaucoup de questions sur, finalement, quel est un petit peu le sens de tout ça. J'avais pas vraiment essayé de répondre sur le moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pour lequel j'ai eu des réponses plus tard. Hein. Et peut-être que là, il faut que je vous raconte comment j'ai eu ma première expérience en médiumnité. Alors, ben, c'était bien des années plus tard. Hein. Je vous ai dit que j'ai commencé les études de psychologie à 33 ans. Et donc, j'étudiais, où je prenais des tonnes de notes. Hein. J'étais une étudiante très appliquée. Et puis, ben, un jour, alors que je prenais des notes, ben, j'ai passé mon stylo de la main droite, je suis droitière, à la main gauche, comme ça. Et puis, j'ai commencé à bouger mon stylo sur la feuille. Et sur la feuille, j'ai commencé à voir des mots qui s'écrivaient. D'abord des lettres, ensuite des mots, des phrases qui s'écrivaient. Et puis, des phrases que je lisais médusées. Et je lisais, ben, je m'appelle... je sais pas, John, je suis mort, dites à ma femme, Anne, que je l'aime. Ou bien, ben, je m'appelle, je sais plus quel nom, je suis tombée du train et dites à ma maman que je vais bien. Et je lisais ces phrases et je dois dire, je comprenais pas.
C'est quelque chose qui se fait malgré vous, vous êtes en train d'essayer de faire de l'écriture automatique?
Alors, pas du tout, non. Non, je sais pas pourquoi. C'est comme je m'amusais avec mon stylo, je l'ai passé dans la main gauche. J'étais pas du tout en train de penser que c'était l'écriture automatique. Je connaissais même pas le mot.
Donc, c'est quoi, votre main qui bougeait toute seule?
Oui, c'est ma main qui bougeait toute seule, en fait. Comme si ma main, comment dire, le stylo, commençait à bouger tout seul. Comme s'il y a des impulsions, comme ça, qui vous font écrire des mots.
Et là, vous réagissez comment? Vous avez peur? Vous pensez que vous êtes en train de devenir folle? Qu'est-ce qui se passe quand on écrit comme ça, malgré soi, des messages qui viennent d'on sait pas d'où?
C'était juste l'étonnement. Je comprenais pas. Je me demandais, mais ça vient d'où? C'est moi? Et je comprenais pas. Donc, en fait, une fois que j'ai eu ces messages, j'ai commencé à essayer de trouver des informations là-dessus. C'est là que j'ai trouvé le mot écriture automatique. J'étais à la librairie, j'ai essayé de demander. Vous avez déjà entendu parler de gens qui écrivent comme ça tout seul. Et je suis tombée sur des livres qui traitaient de l'écriture automatique. Mais à part ça, j'ai pas compris que c'était de la communication de défunts.
C'est un domaine dans auquel vous étiez déjà intéressé ou ouvert?
Alors, pas du tout, mais pas une seconde. Moi, j'étais partie pour faire psycho. J'étudiais énormément pour devenir psychologue et psychothérapeute. Et pour moi, j'étais pas du tout dans cette idée-là. Et ce qui m'a véritablement scotché, c'est qu'un jour, justement, quand je prenais ces messages, que je continuais parce que je savais pas trop quoi faire avec ça, eh ben, la main, le stylo a écrit « Salut, c'est Johnny ». Et Johnny, c'était mon petit copain que je connaissais quand j'avais 19 ans. En fait, j'ai vu l'écriture et en même temps, j'ai senti la présence familière. Je ne sais pas comment expliquer.
C'était... Donc, votre petit ami qui est mort d'une rupture d'anévrisme 15 ans plus tôt.
Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et voilà, donc le stylo a écrit « Salut, c'est Johnny ». Et moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ?» Et puis, ça continue à écrire « Appelle ma mère ». Et là, je me suis dit, non, mais attends, appelle ma mère, mais ça veut dire quoi? Et c'est vraiment, je vous le dis comme ça, parce que c'est ce que je me suis dit dans mon cerveau. Et à ce moment-là, dans mon cerveau, c'est comme si j'entendais une voix ou que j'entendais quelqu'un qui me disait, mais oui, appelle ma mère.
Cette voix, c'était pas votre voix, c'était une voix que vous entendiez de manière... elle avait un timbre, c'était sa voix à lui.
Je dirais que c'était comme si c'était sa voix à lui. Vous voyez, c'est pas comme si je l'entendais comme je vous entends là, mais c'est comme si je l'entendais de l'intérieur. Et puis bon, je me suis dit, allez, je vais regarder le bottin, parce qu'on n'était pas à l'ère des téléphones connectés, il fallait encore regarder les bottins pour trouver des numéros. Et j'ai appelé sa mère. Et puis là, je lui ai dit, bon, bonjour, c'est Brigitte. Et puis, elle se souvenait de moi, évidemment. Elle a eu l'air tout de suite très étonnée. Et puis elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je lui ai dit, est-ce que je peux venir vous voir? Et puis elle m'a dit, oui, bien sûr, passe. Et j'ai pris une excuse, j'avais trouvé quelques photos de son fils. Enfin, je ne savais pas trop quoi dire. Et puis j'ai sauté dans ma voiture et j'ai été la voir. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a tout de suite pris dans ses bras, elle m'a serré contre elle, puis elle m'a dit, Brigitte, on l'a perdue. Ah, c'était affreux d'entendre cette tristesse dans sa voix toutes ces années après.
Vous ne l'aviez pas revue, la maman de votre petite amie, depuis le décès?
Non, je ne l'avais plus revue. Et puis ben, là, en face d'elle, quand elle m'a demandé, mais enfin, pourquoi tu viens? Je n'ai pas réussi à continuer mon excuse, en fait. J'ai regardé, puis je lui ai dit, mais... je viens parce que votre fils m'a demandé de venir. Et là, elle m'a dit, mais tu lui parles? Et j'ai dit, je sais pas, mais il m'a demandé de venir. Et on était déboussolés toutes les deux, en fait. Je savais pas trop quoi lui dire. Et à un moment, elle m'a proposé d'aller sur sa tombe. J'avais jamais vu sa tombe. Hein. Elle m'a dit, est-ce que tu veux aller? Alors j'ai dit, oui, ok. Et on n'a pas eu à aller très loin parce que Ils habitaient juste en face du cimetière, en fait. Donc, on a traversé la rue. Elle m'a amenée sur cette tombe, une tombe mais magnifique en marbre blanc de Carrare. Et quand je suis arrivée sur cette tombe, j'ai su, je ne sais pas comment expliquer, j'ai su pourquoi j'étais là et qu'est-ce que voulait dire Johnny. Et là, j'ai demandé à la maman de Johnny, je lui ai dit, elle est où la sœur de Johnny? Elle m'a dit, elle est en Italie. J'ai dit, vous avez des petits-enfants, n'est-ce pas? Elle m'a dit, oui. Et je savais, je lui ai dit, ben, Johnny me fait dire que vous n'avez rien à être là, à prendre soin de sa tombe, mais il faudrait que vous soyez auprès de votre fille en Italie, à prendre soin de vos petits-enfants.
Cette phrase, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous est venu comme ça, spontanément?
Oui, ça m'est venu spontanément. Vous savez, comme, des fois, comme vous dites des choses, vous ne savez pas pourquoi. Mais vous avez besoin de les dire. Après ça, je suis rentrée chez moi, et puis dans le trajet du retour, je me disais, mais c'est pas vrai, mais enfin, qu'est-ce que t'as dit? T'as rouvert la blessure d'une mère. Enfin, je m'en suis voulu presque. Et puis, suite à ça, en fait, je me suis dit, bon, allez, fini avec ça, je veux plus en entendre parler. J'ai plus pris d'écriture automatique. Et puis, je me suis consacrée pleinement à mes études de psychologue et ensuite de psychothérapeute.
À ce moment-là, est-ce que l'étudiante en psychologie est allée voir un confrère pour lui demander s'il n'y avait pas un problème neurologique, un problème psychiatrique qui était en train de se révéler? Est-ce que vous avez eu peur de ça?
Non, pas vraiment. J'ai pas eu peur de ça, mais je savais pas comment le classer. Et j'ai quand même lu des livres sur ce qu'on appelle un espèce d'éveil spirituel. Et puis comme ça, c'est un peu comme ça que je l'ai classé. Je savais pas dans quoi le mettre. Je me suis dit, ouais, il y a des gens qui disent des fois que quand ils ont des éveils spirituels, ils ont des fois des contacts comme ça avec un autre monde. Puis je dis, bah c'est peut-être ce que j'ai eu, parce que je me rendais bien compte que j'étais pas folle. C'est-à-dire que je savais ce que c'était que la folie. La folie, on est plus là, on n'arrive plus à fonctionner, on a peur. Moi, j'avais pas vraiment peur. J'étais juste étonnée. Je comprenais pas. Mais je restais quelqu'un qui pouvait penser, étudier, vivre sa vie. Donc j'étais pas plus déboussolée que ça, mais j'arrivais pas à mettre ça dans le bon tiroir.
La médecine et l'invisible sur la première.
Brigitte Favre, vous finissez vos études et puis vous vous spécialisez en psychotraumatologie, c'est quoi?
Alors la psychotraumatologie, c'est aider les gens à guérir de leur trauma.
Un trauma, c'est quoi? C'est une blessure, une épreuve?
Ça peut être un trauma psychologique, c'est-à-dire que vous avez été soumis par exemple à de la maltraitance, ou vous avez eu peur pour votre intégrité physique, mentale, ou ça peut être un trauma physique, c'est-à-dire vous pouvez avoir un accident de voiture, du coup vous allez avoir peur par la suite de remonter en voiture, chaque fois que vous entendez un crissement de pneu, vous allez faire des bonds. Donc ça c'est des traumatismes. Donc les traumatismes peuvent être suite à un accident, suite à un attentat, malheureusement.
Vous qui êtes psychologue, psychothérapeute FSP, est-ce que vous êtes arrivé dans votre pratique d'accompagnement des personnes qui viennent avec des blessures, avec des traumas, de buter sur des cas où les techniques psychothérapeutiques ne pouvaient rien pour la personne et vous étiez obligé de l'envoyer vers un psychiatre pour une médication, par exemple?
Oui, effectivement, des fois, je travaille avec ou des psychiatres ou des médecins où la médication est assurée par le médecin ou le psychiatre et nous, on fait le travail en psychothérapie.
Donc, c'est pas deux choses exclusives, la psychothérapie et les médicaments?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis en tant que psychologue, je trouve que les médicaments, ça peut vraiment être extraordinaire. L'alliance thérapie et médicaments pour une dépression sévère est des fois ce qui aide le mieux. Maintenant, il y a aussi des fois, on arrive à le faire sans médicaments.
Brigitte Favre, vous avez, à côté donc de cette fonction de psychologue, vous êtes aussi médium. Comment vous en êtes venue à vous lancer dans cette autre activité?
Quand j'avais cette expérience d'écriture automatique, même la communication que j'ai donnée à la mère de Johnny, pour moi, je n'avais pas classé ça dans la médiumnité.
Donc en fait, vous avez vécu cette expérience, puis vous l'avez mis de côté, vous avez continué votre route sans plus penser à ce phénomène-là, vous n'avez pas cherché à y retourner, à développer je sais quelles compétences?
Pas du tout. Alors c'était vraiment, pour moi, c'était une expérience un peu extraordinaire. Mais j'avais pas mis le mot médium dessus. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai une amie qui m'a dit, qui a partagé avec moi qu'elle avait été voir une médium. C'était vraiment un peu ces choses de synchronicité. Vous venez de perdre un parent, puis on vous dit ça, elle savait même pas que j'avais perdu mon père. Mon père est décédé dans le canton de Vaud. Donc il n'y avait pas d'annonce qui était parue dans les journaux à Genève, elle ne le savait pas. Et quand elle m'a partagé son expérience, moi qui venais de perdre mon père, je me suis dit, tiens, je crois que je vais aller voir cette médium. Et quand je l'ai vue, en fait, c'était vraiment, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je savais qu'un médium parlait avec les défunts, mais plus que ça.
Et pourquoi vous alliez voir un médium? Vous aviez des choses à échanger avec votre père ou...
Peut-être, hein, peut-être quand même. Enfin, sur le moment, je n'ai pas pris ça comme ça. Sur le moment, je me suis dit, tiens, je viens de perdre mes parents, une amie me parle d'une médium, peut-être que c'est là que je devrais me diriger. Vous voyez, un peu, scientifique, quoi. Voilà. Et quand j'y suis allée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai eu cette chance, en fait, durant cette séance, que mes deux parents étaient là. Et c'est d'abord ma mère qui était là et qui m'a donné des jolis messages soutenants. J'étais assez scotchée que la médium me donnait comme des phrases qu'avait dit ma mère. Enfin, je reconnaissais tout ce qu'elle me décrivait de sa personnalité. Ma mère était décédée quand même. Elle avait eu un problème au poumon, donc c'était pas simple. J'avais pas pu être là quand elle a été décédée. Elle m'a donné aussi des messages rassurants par rapport à ça. Donc, j'ai trouvé que c'était très guérissant d'une certaine manière. Mais sans doute, ce qui m'a le plus étonnée ont été les messages de mon père. Je dirais qu'il ne connaissait pas énormément de choses de ma vie. Et puis moi, je ne reconnaissais pas énormément de choses de la sienne. Et puis, ben, avec ce divorce qui s'était passé, il y avait vraiment, au niveau de notre histoire, des incompréhensions. Hein. Moi, j'avais entendu... J'avais quand même l'impression que des fois, il était un petit peu parti, comme ça. Il est un petit peu moins intéressé à nous. Et là, il y a eu quelque chose de l'ordre de mon père qui a pu montrer que ce n'était pas le cas. Un petit peu qui a pu vraiment être rassurant. Et pour moi, ça a été quelque chose où j'ai vraiment... qui a été très... guérissant. Par rapport à, j'ai pu jeter un autre regard sur ce père. Et c'est vrai que quand je suis sortie de cette séance, je me suis dit, mais je veux savoir comment ça fonctionne. Ça, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. C'était vraiment thérapeutique, donc je veux savoir.
Ça, c'était la psychologue qui cherchait une nouvelle méthode d'accompagnement de ses patients.
Je sais pas, mais c'était en tout cas la psychologue ou la scientifique qui voulait pouvoir comprendre.
Alors justement, comment la psychologue formée à l'université, selon les standards de la pensée occidentale matérialiste, prend ce phénomène qui, après tout, aurait pu être une projection de ce que vous saviez de votre mère, que la médium aurait pu d'une manière ou d'une autre capter, ou que vous auriez induit dans l'échange que vous aviez avec elle, ou en fait quelque chose qui viendrait de vous et pas, pourquoi ça venait absolument de votre mère, qui était décédée depuis quelque temps?
Ma mère, j'aurais pu avoir un doute, dans le sens que les messages ont été plutôt des choses qui correspondait assez bien à elle. Les messages de mon père ont été plus étonnants parce qu'il m'a amené un autre explicatif sur ce qui s'était passé, pourquoi finalement, voilà, les contours qu'il avait pris dans sa vie.
Des choses que vous ignoriez ?
Oui, c'était j'ignorais. Moi, je les avais interprétées d'une certaine manière. Et là, il me donnait un autre explicatif auquel moi, je n'aurais pas pensé. Ben, j'ai pu me dire, mais ça peut venir que de lui, ça ne peut pas venir de moi. Et par la suite, quand j'ai pris des cours...
Ça veut dire que là, vous êtes formé, vous êtes psychologue, psychothérapeute, et là, vous décidez de prendre des cours de médium. C'est-à-dire qu'il y a quoi, des universités pour apprendre à devenir médium? On en prend comment la médiumnité?
Donc en premier, j'ai pris avec... j'ai pas été très loin, j'ai pris avec la médium avec qui j'avais fait cette séance de médiumnité, qui s'appelle Sarah Durso, qui est en Valais. Et puis, dans ces cours, ben, en fait... c'était pas que la personne qui s'entraînait pour moi, sur moi, c'était aussi moi qui essayais de faire, d'avoir des informations sur la personne ou sur ses défunts, de la personne que j'avais en face de moi. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne.
Alors c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous en tant que médium, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qui vous fait dire que c'est un défunt et pas votre imaginaire, celui de votre client en face?
La première chose, c'est que une séance de médiumnité, c'est pas une séance de médiumnité si vous pouvez pas donner des informations précises sur le défunt qui est là. C'est-à-dire que le médium se doit de dire s'il a un père qui est là, de dire pas c'est juste votre père qui est là, parce que ça veut rien dire, mais donner des informations précises sur votre père qui vous feront dire que à vous, qui me consultez, que c'est votre père qui est là.
Mais vous parlez pas avant avec la personne en face de vous pour savoir un petit peu d'où elle vient, ce qu'elle vient chercher, comment étaient ses défunts?
Justement pas. C'est tout le contraire d'une psychothérapie. Un médium doit demander aux gens de rien dire, si ce n'est oui, non, je ne comprends pas. Et de commencer à donner des informations, je ne sais pas comment il est décédé, comment il était, sur sa personnalité, sur ce qu'il aimait, des fois de trouver ce qu'il faisait comme travail ou des choses comme ça, pour que la personne en face puisse dire, oula, oui, c'est mon père, c'est pas quelqu'un d'autre. Et une fois que vous avez identifier ce défunt pour la personne qui vient vous voir, à ce moment-là, vous pouvez donner les messages de ce défunt, expliquer pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il communique en fait. C'est ça ce que fait un médium.
Alors là, on évoque une séance de médiumnité qui fait partie des phénomènes qui pourraient être considérés comme vraiment bizarres, dans le sens où, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de preuve de l'existence de quelque chose après la mort. Donc on part sur des présupposés qui sont en opposition avec les canons de la science occidentale telle qu'elle se formule aujourd'hui à l'université. Mais si on part sur quelque chose qui est bizarre, mais un petit peu moins bizarre, il y a le phénomène de télépathie qui est aussi relativement documenté, qui pourrait expliquer des échanges d'informations d'un inconscient à un autre inconscient. Ce que vous, en tant que médium, vous donnez à votre patient, client, je ne sais pas comment vous les appelez.
Alors moi, je les appelle clients, mais...
Ce que vous donnez comme information à votre client, est-ce que ça ne pourrait pas être des informations que lui a dans son subconscient et que d'une manière ou d'une autre, par votre sensibilité, vous vous branchez sur ce subconscient et vous lui redonnez les informations qu'il a déjà. Et ce ne serait finalement pas une communication avec un défunt, mais sur un défunt.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en tant que médium, on essaie d'obtenir des informations que les gens ne savent pas ou qu'ils doivent vérifier. Et c'est ça l'idée, en fait. Et vous dites que les médiums n'ont pas été... Il n'y a pas d'études sur eux. Ce n'est pas vrai. Il y a des instituts, il y a même des chaires dans les universités qui ont aussi recherché. La médiumnité, traditionnellement, elle fait partie de la parapsychologie. Donc, il y a des études qui existent sur le sujet. Et notamment aux États-Unis, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Windbridge, qui fait vraiment des études sur les médiums. Et d'ailleurs, eux, ils ont pris des médiums triés sur le volet, hein, qu'ils ont déjà vraiment testés et surtestés pour être sûrs qu'ils ont bien les informations des défunts et pas de la personne qui est en face. Comment ils font ? Ben, simplement, ils font que vous ne puissiez pas voir la personne qui est en face, vous n'êtes pas dans la même pièce. Et puis que même les informations que vous donnez aux chercheurs qui est en face de vous sur un défunt, que le chercheur ne connaisse même pas la personne pour qui c'est. Donc, ils mettent toutes ces barrières, hein, pour être sûr que finalement, les messages que donnent les médiums, ils peuvent les avoir que d'un défunt. Et ça, il y a des études qui existent, effectivement. C'est aussi des fois important de trouver ces études-là et puis de lire sur le sujet.
Alors, c'est vrai que les Américains sont beaucoup moins complexés que les Européens de l'Europe occidentale sur le sujet. Il y a des chercheurs... dans des universités, avec des fonds publics, font des programmes de recherche officiels sur l'existence de la vie après la mort, et notamment certains depuis quelques années qui postulent pour des raisons empiriques, donc sur la base des expériences de mort imminente, des médiums qui ont été testés, qui postulent l'existence de quelque chose après la mort du corps. Il y a notamment le docteur Gary Schwartz que vous citez dans votre ouvrage, qui est docteur en médecine, professeur en neurologie à l'Université d'Arizona, et lui qui fait des recherches sur des médiums sous contrôle, qui en déduit une vie après la mort. Il a aussi fait des recherches sur les expériences de mort imminente. Est-ce que toute cette littérature scientifique plutôt américaine a rassuré la psychologue formée à l'université du phénomène qui se passait ?
Oui, bien sûr. Ben, c'est rassurant de savoir qu'il existe des études. Il existe la Society for Psychical Research, la SPR, qui est un organisme qui étudie les médiums depuis 1882. Donc, ils ne nous ont pas attendu pour le faire. Et au début, ils sont beaucoup intéressés aux médiums, d'abord pour vraiment prouver leur imposture. Hein. Il y a eu un vent en poupe sur la médiumnité en Angleterre.
Hein. C'était un peu l'époque du spiritisme, c'est ça, à la même époque que Victor Hugo qui faisait tourner les tables.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça il y a pas mal de ça. Puis évidemment, il y a des scientifiques qui sont intéressés à ça pour essayer de prouver que c'était des impostures. Et ils ont vraiment travaillé avec des scientifiques de l'époque pour prouver ça.
Donc la démarche, c'était de montrer que ça n'existait pas.
Oui, au début, c'était pour ça. Et puis, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a sans doute certains médiums qui sont des imposteurs, ça, c'est sûr. Hein. Et ils ont aussi trouvé que certains médiums, ils pratiquaient ce qu'ils disaient faire.
Vous, pratiquante, par exemple, des thérapies cognitives comportementales, qui sont des thérapies très terre-à-terre, comment vous intégrez la certitude que vous êtes en lien avec des défunts dans votre système de pensée ?
Je dirais que c'est surtout par les informations que j'ai. En tant que psychologue, j'ai été formée aux statistiques. Je sais qu'on ne peut pas tomber juste dans 90% des cas. Quand vous donnez des informations sur quelque chose, si vous êtes faux, vous ne pouvez pas avoir ce degré de justesse. Et dans la médiumnité, quand vous donnez des informations sur un défunt, ça doit être des informations spécifiques, ça ne pourrait pas être des informations bateau.
Je suis en lien avec votre maman, elle vous aime et tout va bien pour elle.
Voilà, ça c'est pas l'identification, ça c'est un message qui veut un peu rien dire. Mais de dire que votre maman, c'était quelqu'un qui travaillait, je vous dis n'importe quoi, dans le social, et puis qu'elle a eu tant d'enfants, et puis qu'elle est morte environ à cet âge-là, et de ça, ça c'est des informations spécifiques. Et ça peut pas être quelque chose que vous avez en hasard. Le hasard pourrait vous faire dire trop de choses différentes. Donc c'est ça en tant que scientifique, que je me dis, c'est pas possible possible d'avoir ces informations-là comme ça, d'accord ? L'hypothèse qu'on l'ait, c'est un peu comme ce que dit Piero Calvi-Parisetti, mon collègue, qui a fait un livre qui relate pas mal d'études sur le sujet, sur les médiums, mais aussi sur la vie après la mort. Il a écrit 21 jours dans la vie après la vie, et puis Love Knows No Death aussi. Enfin, il a écrit plusieurs bouquins qui vraiment relatent ces études-là. Il y a un moment où l'hypothèse qu'on parle avec un défunt est presque l'hypothèse la plus logique. Voilà.
Donc vous dites être en contact avec un défunt, vous recevez des informations, ces informations, elles prennent quelle forme ?
Alors moi, je vois, c'est-à-dire que des fois je vois la personne, donc je peux la décrire physiquement, ou bien je peux ressentir si quelqu'un était grand, petit, s'il avait un problème physique, où c'était, comment il se sentait dans sa vie, un peu les émotions qu'il avait, parce que aussi j'ai l'impression que la psychologie m'aide, je suis quelqu'un qui évidemment parle son fond de commerce, c'est les émotions, c'est ces choses-là, donc c'est quelque chose que je ressens de manière assez forte.
Ce que vous expliquez, c'est que c'est votre corps qui est le récepteur de ce message que vous percevez comme étant le message d'un défunt ?
Oui, tout à fait, que ça peut être au niveau des sensations, au niveau des émotions, ou bien ça peut être aussi des fois des sensations d'entendre des choses de l'intérieur, d'entendre des mots, d'entendre des phrases, ou bien d'entendre des sons. Aussi de ressentir, par exemple, des odeurs. Des fois, je peux savoir que quelqu'un, par exemple, buvait, on sentait une odeur de vin ou une odeur de whisky. C'est des choses qui, en tant que médium, quand on sent ça, on sait, et ça nous apprend, ça nous donne des informations sur la personne avec laquelle on communique, sur le défunt.
Ça veut dire que tous vos sens, finalement, sont mobilisés ?
Exactement, c'est tous les mêmes sens qu'on a, les cinq sens normaux, mais qu'on appelle les sens intérieurs, donc clairvoyance, clair ressenti, clair audience. C'est comme ça qu'on les appelle, voilà. Il ne faut pas juste dire « Ah, tiens, cette personne, elle buvait du whisky. » Point. Elle faisait ça, tac. Non, il s'agit en fait d'avoir des informations sur elle, mais en même temps de pouvoir saisir qui elle était et de traduire ça pour la personne qui est en face. C'est ça qui est extrêmement guérissant dans la médiumnité. Ça permet justement d'amener cette communication.
Vous avez utilisé un mot qui m'a interpellé. Vous avez dit c'est très guérissant. Est-ce que la médiumnité, c'est un autre outil à votre service de psychologue et de psychothérapeute ?
Alors, moi, en tout cas, je fais très attention de garder séparé, c'est-à-dire que j'ai deux consultations et pour moi, ça doit le rester, d'accord ? En psychothérapie, je fais de la psychothérapie, en médiumnité, je fais de la médiumnité. Donc quand je travaille comme médium, comme je vous ai décrit avant, c'est dans une séance de médiumnité, c'est-à-dire quelqu'un vient me voir, je le connais pas, il me connaît pas, et là, je donne des informations sur un défunt que je connais absolument pas, évidemment, et ensuite, je donne des messages. Et là, c'est extrêmement guérissant. Pourquoi ? Pour la personne, parce que le médium fait revivre d'une certaine manière un défunt et permet à cette communication de s'établir. Donc oui, c'est guérissant et ça, c'est important que ça reste aussi dans la science de médiumnité.
Si un de vos patients ou une de vos patientes vous dit « Ah, j'ai appris que vous étiez médium, je voudrais bien faire une séance avec vous », vous dites quoi ?
Si c'est un de mes patients que j'ai depuis longtemps, je vais plutôt l'encourager à aller voir un autre médium. Parce que, comme je vous ai dit, ce qu'il y a de très percutant dans les séances de médiumnité, c'est qu'on ne connaisse pas la personne qui vient vous voir. Maintenant, évidemment, j'ai sorti un livre que vous avez mentionné. Alors, ça commence à se savoir et je ne le cache pas. D'ailleurs, mon livre, il est en salle d'attente. Parce que je peux comprendre peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça dérange et je ne veux pas mentir et cacher ça.
Alors des personnes qui pourraient être surprises de la teneur de notre conversation, c'est peut-être des auditrices ou des auditeurs qui se demandent qui est cette psychothérapeute, psychologue qui est aussi médium. Et est-ce que vous avez, comme des auditeurs sceptiques, des personnes qui viennent vous voir, qui ne croient pas par exemple à la vie après la mort et qui pensent que c'est une imposture et qui viendraient vous voir pour vérifier par curiosité ? Vous avez eu déjà croisé des gens comme ça dans votre travail de médium ?
Oui, alors évidemment, il y a des gens qui viennent par curiosité, qui sont sceptiques et puis qui disent « je vais voir un médium par curiosité ». Et c'est vrai que, des fois, ils changent d'avis, des fois pas. Ce que je me rends compte en tant que médium, c'est que le monde, ce que j'appelle spirituel ou le monde de l'invisible, c'est vrai que ça fait des grands mots, monde spirituel, ça fait des fois un haut perché, donc moi je préfère le monde de l'invisible.
À part ça, parler avec les morts, le titre de votre ouvrage, c'est « parler aux morts », ça fait quand même très haut perché, non ?
C'est vrai. Peut-être que je me suis rendu même plus compte que je suis au perché. Merci de me rappeler ça.
Est-ce que dans votre entourage professionnel, qui a priori n'est pas forcément versé dans la médiumnité, vous avez eu des réactions hostiles, virulentes, suite à la sortie de ce livre ?
Alors, vous serez peut-être étonnés quand je vous dis non, pas une. Et j'ai été très étonnée d'ailleurs moi aussi. C'était une de mes peurs hein, en faisant ce coming out de médium. Mais en fait, non, ça a été plutôt le contraire. J'ai eu des collègues qui m'ont écrit, je m'attendais, mais pas du tout à ce qu'ils m'écrivent. J'imagine pas qu'ils sont ouverts à ça. Et puis qui au contraire m'ont dit, oui, mais bravo, c'est très courageux. Et certains qui ont osé partager en disant, mais tu sais, moi aussi, il m'est arrivé des trucs un peu bizarres. Donc je me suis rendu compte que c'était loin d'être unique. En tant que médium, on doit développer cette idée, cette conviction qu'on va y arriver.
C'est-à-dire que c'est un peu un lâcher-prise quelque part.
Voilà, c'est une confiance. Et c'est une confiance sur le fait que je peux faire ce que je fais. Voyez, en psychothérapie, quand il se passe quelque chose en séance, je veux dire j'ai tout mon savoir, j'ai des modèles, j'ai des choses sur lesquelles je peux me baser. Donc en fait, quand j'ai un patient, j'ai mes techniques si on veut. En tant que médium, quand j'ai un client, je travaille son filet. Je dois connecter, je dois pouvoir donner des choses. Mais ce qui me permet de pouvoir le faire à chaque fois, c'est vraiment cette conviction que je peux y arriver. Et cette envie d'aider l'autre, cette envie de pouvoir amener quelque chose, d'être ce traducteur.
Ça veut dire que vous avez deux activités, on a bien compris, qui sont totalement séparées, la psychothérapie et la médiumnité. En revanche, votre posture, vous, Brigitte Favre, de psychologue, psychothérapeute et de médium, est celle d'aider l'autre, d'accompagner l'autre dans les deux cas.
Exactement, oui. Parce que la médiumnité, si elle m'a autant intéressée, c'est parce que j'ai trouvé qu'elle avait un côté guérissant.
Est-ce qu'elle peut aussi aider ? On évoquait tout à l'heure des personnes qui pourraient avoir des réticences à entendre cette affirmation que vous êtes en contact avec un défunt qui vous parle. Est-ce que la médiumnité aide uniquement les personnes qui croient en la vie après la mort ?
Non, pas du tout, parce que effectivement, il y a des gens qui viennent juste par curiosité, des fois, pour parler avec leurs défunts, et du coup, ça peut leur permettre de les réconcilier avec ça. Il y a des gens qui quittent le cabinet d'un médium toujours sceptique. Hein. Je veux dire, je crois que là-dedans, c'est vraiment un moment à la personne de se positionner aussi. Vous voyez, vous pouvez donner toutes les informations que vous voulez à quelqu'un. Il peut toujours se dire en sortant que vous l'avez déduit, je ne sais pas, que vous êtes mentaliste ou je ne sais, ou bien que vous avez peut-être trouvé quelque chose sur Internet avant. Enfin, vous voyez, on a toujours plein d'explications. À un moment, des fois, je crois que c'est aussi, et ça c'est bien, qu'on ait toujours notre libre arbitre hein, et notre décision de choisir à quoi on croit ou on croit ou on ne croit pas. Et moi, mon but, c'est jamais de convaincre. Je veux dire, j'ai pas à convaincre. Moi, je travaille comme médium pour aider, et puis comme psychothérapeute pour aider. Et dans les deux cas, j'ai pas à convaincre. Finalement, comme je vous ai dit, j'ai commencé à me former en médiumnité en Suisse. Mais après, j'ai fait un cursus en Angleterre. Pourquoi en Angleterre ? Parce qu'en Angleterre, ils ont, la médiumnité, elle rentre dans le côté religieux. Le spiritualisme est une religion reconnue en Angleterre. Lorsque vous allez, par exemple, dans des églises, en Angleterre spiritualiste, vous avez des gens qui font des orations. Et en même temps, à certains moments, vous allez voir des médiums travailler sur scène. On appelle ça des médiums publics. Et ces médiums-là vont donner des messages de défunts à des personnes de l'assistance. Chez les spiritualistes, c'est basé sur trois angles. Bon, l'histoire que c'est une religion, parce qu'ils croient en Dieu, bon, très bien. Et puis, surtout, c'est aussi une philosophie, hein, donc ils ont une explication sur qu'est-ce que la vie après la mort, hein, en quoi, eux, ils l'expliquent, la progression éternelle, que ça ne s'arrête pas avec la disparition du corps, enfin tout ça. Et puis, le côté scientifique, pour eux, c'est les médiums. C'est les médiums qui montent sur scène et qui donnent ces preuves suffisamment précises pour décrire un défunt. En Angleterre, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc, ils ont des écoles qui sont extrêmement reconnues. Et quand j'ai découvert le Arthur Findlay College, qui est un collège au nord de Londres, à Stansted, qui donne des cours de médiumnité toute l'année, c'est vrai que j'ai passé pas mal de mon temps là-bas. Et quand j'ai appris en fait que le Spiritualist National Union, qui est en fait l'organisme à qui appartient le Arthur Findlay College, où j'allais, donnait des cursus de formation médiumnité certifiants, j'ai décidé de faire ça, puis c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, et j'ai obtenu un diplôme, voilà, de médium de plateforme et d'orateur public. Et pour moi, c'était important de faire ça, parce que, ben, voilà, j'ai toujours fait, quand je fais un truc, je fais toujours un diplôme qui va avec. Pour moi, c'était important pour moi, déjà, pas
ça,
pour...
Ça valide un petit peu votre expertise ?
Exactement, parce que vous êtes évalué sur votre médiumnité, et pour moi, c'était un petit peu le truc qui me donnait ce timbre, en fait, un peu, de médium. Je m'étais déjà intéressée à la religion et à ce qu'elle pouvait apporter à l'humain. J'ai fait sciences des religions comme un cours en Angleterre. J'ai fait psychologie des religions à Genève. Donc c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée aussi, comment on se lie à quelque chose de plus grand. Parce que pour moi, mais ça c'est très personnel, hein, pas tous les médiums sont comme ça. Pour moi, la médiumnité s'inscrit dans quelque chose de plus grand aussi.
Ouais. Quand on est dans un deuil, on va dire à la personne « pense à autre chose ». Il faut que tu tournes la page. Mmh. Est-ce qu'une consultation de médiumnité où vous dites être en contact avec un défunt, c'est pas un peu morbide comme démarche ?
Non, c'est pas morbide comme démarche, parce qu'effectivement, il y a un moment dans traiter le deuil en psychothérapie, on pensait et on disait aux gens, oui, passez à autre chose, comme vous dites. Hein. Et on s'est rendu compte, aussi en psychothérapie, qu'en fait, pour traiter les souffrances du deuil, c'est plutôt au contraire pouvoir se reconnecter à quelqu'un. Vous voyez, si vous avez perdu votre père, et puis ben, vous vous dites qu'il y a une partie de votre père que vous pouvez continuer à honorer avec ce qu'il vous a appris, avec ce qu'il vous a transmis, des fois en pensant à lui, des fois en regardant ses photos, puis en se disant, ben, ouais, c'est vrai que c'était, j'ai eu cette chance-là. Et c'est au contraire, ça n'exacerbe pas le deuil, ça aide. Et ça, c'est pas morbide, vous voyez, mais c'est pouvoir se relier quand même à cette personne-là, comment dire, avec plus de, ouais, peut-être de gratitude, de douceur. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été bien, parce qu'évidemment, c'est pas toujours tout se passe bien avec les gens, hein. Il y a des gens qui ont été maltraitants. Donc là aussi, c'est faire ce travail aussi peut-être de pouvoir encourager la personne à lui dire encore ses doléances, à pouvoir exprimer encore cette douleur-là. Des fois, redonner à l'expéditeur ce qu'on a reçu. Si vous avez eu un parent extrêmement maltraitant, se pouvoir lui dire, se pouvoir encore exprimer, peut-être lui dire qu'on n'a plus envie de rien avoir avec lui, mais au moins pouvoir le dire et clôturer l'histoire.
Vous nous avez expliqué que les deux activités étaient relativement étanches. Est-ce qu'il vous est arrivé pendant une séance de psychothérapie d'avoir la sensation, l'impression qu'un défunt intervenait dans la séance ?
Alors, quand il n'est pas invité, non. Parce que, comme médium, pour moi, c'est très important de pas commencer à donner des messages à la COP ou à la Migros aux gens que je croise, et encore moins à mes patients. Donc, pour moi, comment dire, je veux connecter, je connecte, je veux pas connecter, je connecte pas. Donc, quand je suis en face de mes patients, je connecte pas. J'ai pas besoin de ça. Par contre, quand on est en train de travailler avec mes patients, évidemment, sur des problématiques de deuil, des fois, j'ai des informations. Mais là, à nouveau, en tant que thérapeute, je ne vais pas leur dire « Ah, vous savez, j'ai votre père, ce n'est pas mon rôle. »
Dans un contact médiumnique qui soit avéré ou imaginaire, la personne qui est dans ce contact-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'addiction que vous pouvez voir chez votre client ou chez votre cliente qui veut entretenir une espèce de lien comme ça avec quelqu'un qui n'est plus là physiquement ?
Oui.
Vous gérez ça comment ?
Alors tout à fait, il y a un risque d'addiction, ça c'est certain. C'est pour ça que moi j'ai été bien formée hein, quand j'étais chez Sadra Durousseau, elle disait je reçois pas les gens au-delà de un rendez-vous médiumnique par année. Moi je fais un tous les 6 mois, disons, mais j'accepte pas moins de 6 mois de revoir les gens pour un contact médiumnique parce que justement il y a cette idée là. Et aussi comme médium, notre message doit être évidemment le message de défunt, mais aussi sans doute qu'un message que les gens doivent vivre. Que la vie, c'est pas d'être uniquement avec ses défunts. Je veux dire, moi, en tant que médium, je pourrais être avec mes défunts toute la sainte journée, d'accord ? Je pourrais être avec mes parents, avec ceux que je vais perdu tout le temps. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est important. Il faut vivre.
Pour terminer cette année, suivons le conseil de Brigitte Favre et restons bien ancrés dans la vie.
Pour terminer cette saison 1, nous retrouvons dans le prochain épisode Olivier Abosolo, médecin anesthésiste et animateur, qui clôturera cette série de 10 entretiens avec une belle réflexion autour de l'amour.
Tous les épisodes de cette émission sont disponibles sur Apple Podcasts, l'application Play RTS et la plupart des plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à le partager et si vous l'avez aimé, à lui mettre 5 étoiles. Pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire à l'adresse suivante invisible@rts.ch. Je répète, invisible au singulier, @rts.ch.
Merci pour votre écoute. La médecine et l'invisible, un podcast RTS.